Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Constance Bien-Aimée, l'organisatrice du Printemps des sciences humaines et sociales. Je suis très heureuse d'accueillir pour cette quatrième rencontre Catherine et Raphaël Larère pour leur ouvrage Penser et agir avec la nature, ainsi que Christiane Bouchard et Olivier Petit qui animeront les discussions autour du livre. Alors, les échanges entre nos invités dureront une petite heure et seront suivis d'un temps consacré aux questions du public que vous pouvez poser tout au long de la rencontre via le fil de discussion instantané en cliquant sur Converser. Je remercie Catherine et Raphaël Larère, excusez-moi, d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférences, ainsi que Christiane Bouchard et Olivier Petit d'avoir accepté de l'animer. Et enfin, je remercie les partenaires de cette rencontre, la chaire Économie sociale et solidaire des Hauts-de-France et l'Université populaire de Grande-Synthe. Voilà, il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente rencontre. À tout à l'heure.
Bonjour à tous. Je suis Olivier Petit, je suis maître de conférence en économie à l'Université d'Artois et je suis chercheur au Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Et donc, avec Christiane Bouchard, à qui je vais passer tout de suite la parole, on va effectivement animer cette rencontre.
Merci Olivier. Donc Christiane Bouchard, moi j'ai été élue pendant 19 ans en charge de l'économie sociale et solidaire et également en charge des enjeux climatiques à la métropole européenne de Lille.
Voilà, donc la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, c'est une rencontre qui s'inscrit en fait dans le cadre du Printemps des sciences humaines et sociales qui est organisé par la MESH. Donc la MESH, c'est la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Et donc cette rencontre est en partenariat avec la chaire ESS, donc sur l'économie sociale et solidaire, hein, ce qui justifie aussi la présence de Christiane Bouchard. Moi-même, je suis membre de la MESH. De la chaire ESS et puis l'Université populaire de Grande-Synthe, qui était en fait à l'origine de la sollicitation initiale de Catherine et de Raphaël Larère. L'année dernière, ça devait se dérouler avec une visite sur site à Grande-Synthe, et compte tenu des conditions et des circonstances sanitaires, et finalement, on a reporté cette année cette rencontre uniquement en distanciel. Donc, le sujet de la rencontre d'aujourd'hui, Penser et agir avec la nature s'appuie évidemment sur l'ouvrage de Catherine et Raphaël Larère qui est paru en 2015 aux éditions La Découverte. Il y a un petit lien pour ceux d'entre vous qui veulent accéder directement à la page de présentation de l'ouvrage sur le site de l'éditeur qui doit apparaître sur le fil de discussion. Donc c'est un ouvrage qui est très ambitieux, qui a eu déjà beaucoup de retentissements, hein, depuis sa parution en 2015. Qui traite à la fois de la question de la nature aujourd'hui, ce qualificatif, hein, est-ce qu'il est encore opportun de le mobiliser, dans quelle mesure, quelles sont aussi toutes les limites que ça peut comporter et pourquoi on abordera ces questions-là avec Catherine et Raphaël Larère, malgré tout maintenir ce qualificatif. Un ensemble d'enjeux aussi, c'est l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage autour des techniques. Au XXIe siècle, on sait à quel point, même si c'est une ancienne question, ces enjeux-là sont prépondérants. Et puis la troisième partie de l'ouvrage, qui est plutôt sur les articulations entre le local et le global, avec un ensemble d'enjeux qu'on va être amené à balayer tout au long de ce temps d'échange. Donc, on a construit la rencontre d'aujourd'hui avec une série de questions. Donc, on aura une première séquence, hein, qui va durer entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Où à tour de rôle, Christiane Bouchard et moi-même allons poser des questions à Catherine et Raphaël Larère, qui répondront. Et puis on engagera le dialogue, hein, de temps en temps aussi, je pense. Et puis dans la dernière partie, il nous restera à peu près une grosse demi-heure pour pouvoir collecter les questions. Donc on vous invite une fois encore à inscrire sur le chat pour nous permettre en fait d'énoncer ces différentes questions. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que lors de ce premier temps d'échange, en fait, on ne suit pas l'ordre de l'ouvrage lui-même. Ça aurait eu un certain sens, hein, puisque l'ouvrage est construit de telle manière que les différents chapitres se répondent les uns aux autres. Mais on a souhaité aussi ordonner un certain nombre de questions qui nous tenaient à cœur avec Christiane Bouchard. Et avant qu'on entame ce temps de discussion, je voudrais présenter, en les remerciant encore une fois chaleureusement, Catherine et Raphaël Larère. Donc, à tour de rôle, donc Catherine Larère est philosophe. Elle est professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, au départ, elle a travaillé, c'était le sujet de sa thèse de doctorat d'ailleurs, hein, doctorat d'État. J'ai regardé l'autre jour plus de 2000 pages, donc on voit le volume, la somme que ça représente autour des philosophes du droit naturel et puis un ensemble d'auteurs, moi qui me sont chers aussi en tant qu'économiste, hein, les physiocrates. Donc, avec la publication d'un ouvrage, L'invention de l'économie au XVIIIe siècle, du droit naturel à la physiocratie, hein, qui était une version révisée de cette thèse. Et puis, avec le temps, elle est devenue une spécialiste très reconnue des questions d'éthique et de politique liées à la crise environnementale. Où on peut dire, je pense, que Catherine Larère a vraiment contribué aussi à diffuser beaucoup d'auteurs, notamment des auteurs nord-américains qui étaient très peu connus en France. Et par ailleurs, donc, parmi ses fonctions, j'essaye d'être bref, hein, elle a été présidente de la Fondation de l'écologie politique. Voilà, je la laisserai compléter si j'ai vraiment oublié des choses importantes par la suite. Donc, quant à Raphaël Larère, Raphaël Larère, il est ingénieur agronome et sociologue. Il est directeur de recherche honoraire à l'Institut national de la recherche agronomique, ou ancien directeur de recherche à l'INRA, qui est aujourd'hui devenu INRAE. Donc, ses recherches ont porté sur les dynamiques des systèmes agraires et la production des paysages ruraux. Et il s'est spécialisé dans l'étude des usages, des représentations et des conflits d'usage, ainsi que des conflits d'image de la forêt, et puis plus généralement de la nature. Voilà, en travaillant avec Catherine Larère, il s'est aussi beaucoup intéressé aux questions d'éthique environnementale et de philosophie de l'environnement. Et puis, parmi ses fonctions, il a participé à plusieurs conseils scientifiques, hein, de parcs nationaux, ainsi qu'au CORP, hein, au comité d'orientation de parcs régionaux, parcs naturels régionaux de France. Et puis, je tiens à souligner, parce que en tant que lecteur, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, il est directeur de la collection Science en question. Il participe au groupe Science en question à l'INRA, mais qui va au-delà de l'INRA, hein, puisque ça mobilise aussi le CIRAD. Et donc, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas cette collection, à aller lire ces petits ouvrages qui, à chaque fois, sont associés à des conférences et qui sont toujours d'une très, très grande richesse. Donc, je n'ai pas le temps ici de mentionner toutes les publications importantes, hein, de Catherine et de Raphaël Larère, simplement, peut-être au-delà de l'ouvrage qui va faire l'objet aujourd'hui de notre séance de webinaire, mentionner donc en 1997 cet ouvrage du bon usage de la nature, on y reviendra dans un instant d'ailleurs, pour une philosophie de l'environnement qui est paru chez Aubier. Et puis plus récemment, en septembre dernier, un autre ouvrage commun, Le pire n'est pas certain, et c'est sur l'aveuglement catastrophiste aux éditions Premier Parallèle. Qu'on pourra aborder si nous en avons le temps. Voilà, donc sans plus attendre, et vous surtout sentez-vous libre aussi d'ajouter des éléments en termes de présentation si on a oublié des choses importantes. En fait, on souhaitait revenir pour commencer sur peut-être une première question d'ordre général pour débuter l'échange. Donc, je disais il y a un instant que du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement, c'est un ouvrage qui est paru en 1997. Et en quelque sorte, on peut considérer que penser et agir avec la nature est une façon de réactualiser, de repositionner aussi un certain nombre de questions qui étaient déjà présentes dans cet ouvrage paru presque 20 ans auparavant. Et donc, ma première question, c'est est-ce que finalement quelque chose a fondamentalement changé depuis la fin des années 1990 ? Notamment dans nos rapports à la nature. Alors, on peut penser, parce qu'il y a des notions nouvelles, hein, qui ont émergé, bon, la notion de service écosystémique, même si ses racines sont présentes dans les années 70-80, c'est quand même précisément en 1997, l'année où vous publiez votre ouvrage, qu'elle prend son essor à l'échelle internationale. Tous les mécanismes et toutes les propositions autour de la géo-ingénierie. Voilà, est-ce que les choses ont fondamentalement changé, ou bien est-ce qu'on peut identifier une évolution fondamentale dans la manière de penser nos rapports avec la nature? Voilà pour cette première question.
Bon, ben, merci Olivier. Et d'abord, on vous remercie tous les deux, Christiane et Olivier, et la MESH et Grande Sainte, où on aurait pu être, de cette invitation. On est très contents d'être là. Alors, bon, merci, mais je ne vais pas développer trop puisqu'on a assez peu de temps.
Bon, on va échanger, hein. On travaille ensemble, donc on est à la fois substituable, mais il y a des points où on est plus à l'aise,
voilà,
que sur
plus
d'autres.
À l'aise sur d'autres.
Donc, en tant que philosophe et habitué des généralités, je vais commencer par la réponse la plus générale. Alors, quand on publie « Du bon usage de la nature » en 1997, ça s'inscrit dans la suite de la conférence de Rio de 1992 et des attaques très violentes qu'il y a eu contre l'écologie, contre la protection de la nature, avec le livre de Luc Ferry. L'idée que répand le livre de Luc Ferry, mais aussi l'appel de Heidelberg, le manifeste de Heidelberg qui est publié au moment où se réunit la conférence de Rio, que toute cette mobilisation autour de la nature, ça serait irrationnel, romantique, anti-progrès, anti-lumière. Bon. Et on répond là-dessus, comme ont déjà d'ailleurs répondu un certain nombre de scientifiques au manifeste de Heidelberg, mais non, c'est quelque chose de très rationnel. Alors, il y a peut-être tout un sentiment de la nature, ça, on n'a rien contre, mais la protection de la nature, et c'est de là que part notre réflexion, la protection de la nature, et procède d'une réflexion rationnelle et scientifique. Et donc, on répond là-dessus en montrant l'enracinement dans l'histoire des sciences et des pratiques scientifiques de la protection de la nature. À un niveau plus général, ce qu'on essaie de montrer, c'est que le terme de nature n'est pas un terme neutre et que c'est bon de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut dire, et puis de se rendre compte aussi qu'on n'entend pas toujours la même chose par nature, donc de ne pas utiliser le terme comme s'il allait de soi. D'où toute la première partie du livre qui est une sorte d'enquête historique sur ce qu'on entend par nature. Alors on développe ça, donc l'idée n'est pas du tout de développer une nouvelle philosophie de la nature, l'idée est que le travail philosophique peut aider en précisant les concepts et le cadre général des concepts qui interviennent. Je vous dis, on part de la protection de la nature et de la prévention des risques, et puis on élargira aux questions écologiques, mais que ces sujets sont nouveaux, non seulement parce qu'ils posent des questions nouvelles, mais qu'ils remettent en cause les formes de réflexion traditionnelles. Donc, dans du bon usage de la nature, on va déboucher sur l'idée que la protection de la nature telle qu'elle se met en place au XIXe siècle des deux côtés de l'Atlantique, hein, les grands parcs, etc., procède de ce qu'on appelle une vision dualiste de la nature, c'est-à-dire qu'ils mettent d'un côté la nature, de l'autre côté les hommes, et on va montrer à quel, d'une part que ça a aidé, parce que ça fait de la nature un thème à protéger, mais finalement que ça ne correspond pas à la réalité, et que penser l'homme à part de la nature, c'est lancer toute une série de procès parce qu'on va dresser l'homme contre la nature alors qu'il n'y a pas de raison de le faire.
La nature contre l'homme.
Ou la nature contre l'homme. Et donc, bon, cette idée-là qu'on développe dans du bon usage à travers une étude à la fois d'histoire de la philosophie, d'histoire des sciences et puis d'analyse des pratiques de protection de la nature et des politiques publiques de protection de la nature, c'est cette idée-là, on va la continuer dans Penser et agir. Alors, bon, c'est un peu moins de 20 ans parce qu'en fait le livre était prêt plus tôt, enfin peu importe, disons une quinzaine d'années où on a, parce que le livre du bon usage a marché, on a réfléchi, on a travaillé, donc ça tient compte de tout le travail qu'on a fait. Alors, je dirais que du bon usage à penser et agir, il y a quelque chose qui est commun et que traduit le titre « Penser et agir », c'est qu'on ne peut pas séparer la pensée et l'action. Il ne s'agit pas l'action, les politiques publiques de protection de la nature, etc., ne sont pas simplement des applications de schémas préétablis, elles ne sont pas non plus indifférente à ce qu'on sait et ce qu'on pense de la nature. Donc, penser et agir, c'est dire qu'il y a une interaction entre les deux et qu'on a besoin. Donc, si vous voulez, aussi bien de ne pas se réfugier dans la théorie, mais pas non plus de dire « Ah ben, il est urgent d'agir, donc ce n'est plus la peine de penser. » Ça, on n'est franchement pas d'accord. Et l'autre élément, c'est qu'il y a avec la nature, l'idée que non seulement la nature n'est pas extérieure à l'homme, mais que ce n'est pas un simple objet, et donc avec la nature, il y a l'idée d'un partenariat. Et donc aussi peut-être de rendre visible une nature que nous ne regardons pas assez, que nous prenons pour acquise. Alors ça se continue du bon usage à penser à agir. Simplement, les choses, par exemple le terme de biodiversité, qui est déjà présent quand on écrit, écrit du bon usage, mais prend de plus en plus d'importance. Donc on va se dire, quand est-ce qu'on parle de nature, quand est-ce qu'on parle de biodiversité dans les politiques de protection de la nature? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle tantôt de nature, tantôt de biodiversité? Bon, ça c'est ce qui est commun. Ce qui est nouveau, c'est effectivement ce qui a changé, ou en tout cas dont nous n'avions pas une claire conscience au moment où on a écrit du bon usage. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, la question de la technique. Parce qu'on a un peu pris dans du bon usage, on a un peu pensé que la technique, c'était l'application de la science. Or, on s'est rendu compte que, on parle de technoscience, il y avait une elle a son histoire à elle, la technique, et il faut en tenir compte. Et qu'est-ce que c'est qu'une technique qui n'est pas oublieuse de la nature? Ça, on a essayé d'y réfléchir. Et puis surtout, il y a que avec le GIEC, avec le changement climatique, on se met à parler d'anthropocène au début des années 2000, la question écologique devient une question globale. C'est Gaïa, c'est la Terre entière. Et ça, si vous voulez, ça a un certain nombre de conséquences. Je vais en citer deux que reprend le livre. La première, c'est que tant qu'on en reste à un parc, à la façon dont un pays mène sa protection de la nature, on peut dire l'homme et la nature. Mais quand on prend l'ensemble de la Terre, les hommes, ils sont sur Terre. Et ils sont sur Terre, pas seulement comme ceux qui ont des pratiques destructrices dans la nature, mais aussi comme victimes. Donc, on ne peut plus dire l'homme et la nature. C'est cette vision dualiste qu'on remet en cause et qui est simplement plus tenable. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où on prend l'ensemble et on remet pas l'homme, on remet les humains. Or, on se rend compte qu'il y a des diversités, il y a des diversités sociales, il y a des diversités culturelles, il y a des façons inégales d'être affectées par le changement climatique, d'où des problèmes
et de l'affecter,
d'où des problèmes de justice. Et le dernier point, qui fait le lien avec notre dernier livre, c'est que plus on globalise, plus on se met à parler de catastrophe. Donc voilà, le penser et agir, ça continue la même idée. On n'est pas là pour nous dire voilà ce qu'est notre philosophie de la nature, ça n'intéresse personne à la limite, mais pour se dire en tant que philosophe, nous pouvons essayer d'éclaircir ces mots qui sont aussi des concepts. Il faut comprendre de quoi on parle quand on parle de nature. Et les deux nouveautés, technique et globalité.
Merci beaucoup. Pardon, Christiane.
Non, mais j'allais dire exactement ça. Merci effectivement de cette présentation. Je pense qu'on va revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués, notamment sur le rapport de l'homme à la nature, sur les enjeux de coopération. C'est des points qui nous tiennent à cœur tous les deux. Et pour revenir un peu à la situation sur laquelle on est confronté aujourd'hui de pandémie, de crise de la COVID-19, est-ce que vous ne pensez pas que ça réinterroge les rapports aussi entre le scientifique et le politique? On voit bien que dans tout ce qui se passe sur la transmission des virus, transmission de l'animal à l'homme, qui sont créés entre autres par l'érosion de la biodiversité, vous venez d'en parler, est-ce qu'il ne faut pas revoir notre rapport à la nature et derrière ça notre modèle économique?
Alors bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses. Le Covid-19, effectivement, illustre le fait que nous avons un mauvais rapport à la nature et que c'est très lié, au fond, à une espèce de... au fait que les humains représentent une biodiversité beaucoup plus forte. Les humains et alors leurs animaux domestiques ont totalement écrasé la nature sauvage, qui ne représente en termes de biomasse, de masse corporelle, que 4% de la biomasse de tous les les êtres vivants avec des de tous les de tous les vertébrés, hein. Donc c'est on a effectivement, donc on leur laisse de moins en moins d'espace pour vivre et ça multiplie les contacts et bon ben du coup on a des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui existent chez les animaux et qui se transmettent à l'homme. Les zoonoses, on connaissait ça puisque on les avait eues avec l'élevage. Et quand les Européens sont allés en Amérique du Nord, ils ont apporté leurs zoonoses. Et comme les Américains du Nord n'élevaient pas d'animaux, ils n'étaient absolument pas préparés à avoir ces maladies. Et les populations amérindiennes se sont totalement effondrées. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a quelque chose d'important qui fait que, bon, ben, il faut effectivement, et ça, on y reviendra peut-être, laisser plus de place à la nature et non seulement préserver la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces animales et végétales, mais il faut aussi faire en sorte qu'elle représente une masse corporelle beaucoup plus importante qu'elle ne le représentait et qu'elle ait un espace plus important. Alors, sur la question de remise en cause des rapports entre les sciences et les politiques, la science et la politique, je dirais que c'est quelque chose qui est très lié à l'expertise. Il est vrai qu'un scientifique, quand il est dans une situation d'expertise, il est sommé de donner une réponse, et donner une réponse des fois sur des domaines sur lesquels il est moins compétent que d'autres. Par ailleurs, les scientifiques ont appris à ne pas mettre en avant leurs incertitudes. Parce que si on veut avoir des crédits, il ne faut pas dire « je ne suis pas très certain du résultat que j'aurai ». Hein. Et donc, les scientifiques donc, ont de plus en plus tendance à avoir un discours, je dirais, scientiste. Hein. Et ce qui fait que cet autoritarisme du vrai qui s'est mis en place depuis pas mal de temps, auquel réussissent très bien, excusez-moi Olivier, les économistes, hein, cet autoritarisme du vrai se trouve confronté à des gouvernements qui, par le fait même qu'on est dans une situation d'urgence, il y a même une loi d'urgence sanitaire qui a été votée, qui leur donne le pouvoir, hein, des gouvernements qui sont de plus en plus eux-mêmes autoritaires et qui prétendent avoir l'autorité du vrai aussi, mais ce n'est pas le même vrai. Ce n'est pas un vrai scientifique, c'est ce qu'ils considèrent être un vrai politique. Même si notre président se considère comme un bon épidémiologue. Voilà.
Merci de cette réponse. Je voulais revenir un peu sur les rapports aussi homme-nature. Vous avez, Catherine, beaucoup parlé de cette place de l'homme par rapport à la nature, et je trouve que tout au long de l'ouvrage, en ayant bien l'homme dans la nature et pas à côté ni dans des rapports de domination, mais même plus dans des rapports d'égalité, même si on sait bien que tous les individus n'ont pas la même chance, j'ai envie de dire, par rapport aux enjeux climatiques. Néanmoins, on voit bien aussi qu'à des moments donnés, vous parlez de protéger, c'est-à-dire d'agir aussi avec et pour la nature, si je peux dire. Alors, comment vous voyez cette articulation dans l'action ?
Alors, je crois que c'est justement un des points importants des changements qu'il y a eu dans les politiques de protection de la nature entre le 19e siècle et maintenant. Pendant tout un temps, on a pensé que protéger la nature, c'était se mettre en dehors d'elle, ne pas intervenir, parce que dans cette vision où on pensait que la nature est la nature quand l'homme n'y est pas, si on veut que garder la nature, il ne faut pas qu'il y ait d'hommes dedans. Or, ce type de politique a abouti à une série de très grandes injustices. Hein. Les parcs américains, les grands parcs Yosemite, Yellowstone, etc., ont été mis en place en chassant les Indiens qui étaient dedans. Hein. Et ça, c'est quelque chose aussi que les puissances coloniales européennes ont fait quand elles ont
dans
leur propre colonie. Donc, à la fois, ça a eu des conséquences sociales mauvaises. En plus, ce n'est pas forcément bon pour la nature, parce que aussi, ce que nous a appris l'écologie historique, c'est que ce que nous prenons pour l'exemple même de la forêt vierge, à savoir l'Amazon, la forêt amazonienne, est en fait le résultat d'une longue cohabitation entre les populations autochtones et la nature. Donc,
et qu'elle avait un autre visage, c'était une sorte de grand verger tout au long des rivières, et que c'est redevenu sauvage parce qu'il y a eu justement cet effondrement des populations amérindiennes qui a duré un siècle avant que les colons viennent vraiment s'installer.
Et donc, regardez ce qui est, c'est-à-dire l'homme en dehors de la nature, ça n'existe pas, hein, pour parler comme Tintin, l'endroit où la main de l'homme n'a pas mis le pied, il n'y en a pas. Hein. Et donc le problème n'est pas…
Sauf sur la Lune.
Sauf sur la Lune. Oh, encore. Le problème n'est pas agir ou ne pas agir, mais comment agir. Comment agir, parce que ce que nous avons appris aussi avec la question de la biodiversité, ou ce que nous apprend l'exemple de l'Amazonie, c'est que la présence humaine n'est pas toujours destructrice, elle peut être positive. Et donc, la question, ce n'est pas rien faire ou détruire, c'est comment agir avec la nature de façon à profiter aux deux, finalement.
Faire autrement.
Précisément, pour poursuivre en fait sur cette thématique, vous l'avez déjà évoqué, des politiques de biodiversité, de préservation de la biodiversité. On avait une question qui était plus focalisée sur le cas français des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux. En ce moment, en plus, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement parce qu'on est avec Lucie Maurer, que je salue parce que j'ai vu qu'elle faisait partie des spectateurs, et Michel Marchini, qui est l'ancien directeur du parc naturel régional Scarpesco. On est en train d'essayer de travailler d'un point de vue historique sur l'évolution des rapports homme-nature, humain-nature, dans les chartes elles-mêmes. Et on se rend compte que la façon dont on va qualifier ces rapports évolue dans le temps. Et j'aurais été intéressé d'avoir un petit peu votre vision, votre témoignage quant à l'évolution historique sur ces 25-30 dernières années, la manière dont les politiques de préservation de la biodiversité ont été conduites, notamment sur ces territoires de parcs, hein, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, qui sont évidemment avec des doctrines tout à fait différentes.
Hein. Oui. Je dirais au fond, Catherine l'a déjà dit, il y a quelque chose qui a changé, et qui est très important, et qui a été très important pour les parcs, en particulier les parcs nationaux, que je connais nettement mieux que les parcs naturels régionaux, qui a été effectivement le long processus, mais avec inscription dans le droit, etc., de l'adoption de la biodiversité comme norme. La biodiversité sous ses différents aspects, c'est-à-dire diversité génétique des populations de la même espèce, diversité spécifique des espèces, alors ça peut être étudié au niveau des groupes fonctionnels, au niveau des milieux, au niveau des paysages, et puis diversité paysagère, c'est-à-dire l'articulation, la mosaïque de milieux qu'il y a dans un paysage. Le paysage étant un ensemble de milieux interconnectés, par exemple, par des circulations de l'eau ou des choses comme ça. Bon, alors, cette biodiversité, ça a eu deux effets. des effets tout à fait intéressants. Et le premier, ça a été que se dire, mais au fond, on se rend compte, même dans, en reprenant l'histoire humaine et même l'histoire en France, que les actions humaines n'ont pas toujours et ne sont pas toujours défavorables à la biodiversité. Que quelqu'un qui conduit très bien son troupeau dans les alpages peut très bien favoriser une biodiversité végétale et animale très importante, plus élevée qu'il y en a dans la forêt d'à côté où on n'intervient pas. Que un des milieux qui a été le plus riche en espèces, des paysages qui étaient le plus riches en espèces en France, c'était le bocage. Bon, on l'a détruit, d'accord, mais quand il était présent et quand il en reste encore, c'est un milieu extrêmement riche. D'où l'idée, donc, l'action humaine n'est pas nécessairement mauvaise pour la diversité biologique, et donc il faut prendre la diversité biologique comme norme pour se dire, mais voilà, est-ce que mon action va dans un bon sens ou dans un mauvais sens? Alors la deuxième raison sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que prendre le pari de la biodiversité comme norme, c'est aussi rentrer dans des controverses infinies. À quel niveau on va le prendre, etc. Bon, je vais prendre un exemple tout bête. Au niveau de l'île de Porquerolles, supposons un incendie et une bonne partie de la forêt de Porquerolles qui s'effondre. Du point de vue biodiversité, c'est merveilleux. Il va y avoir une explosion extraordinaire d'espèces au niveau de l'île. Et si on prend l'ensemble de la Méditerranée, c'est un des seuls endroits où depuis plus d'un siècle, il n'y a plus d'incendie. Et plus d'un siècle, c'est deux siècles même. Oui. Et ça représente un des rares endroits où on a une forêt qui pousse naturellement et sans être perturbée par le feu. Et donc, à un niveau, on a un résultat, à l'autre, on se dit, ben non, il ne faut pas laisser brûler, on va tout faire pour éviter que ça brûle. Bon, voilà. Donc, vous voyez, à partir de là, il faut savoir que ce n'est pas… Alors, le troisième, et je crois que c'est le plus important, ça va être de sortir du remarquable. Parce que se préoccuper de la biodiversité, ça va être de se dire, mais au fond, où c'est qu'elle est menacée? Elle n'est pas menacée dans les parcs, dans les réserves… Elle n'est pas trop menacée dans les endroits qui sont soumis à une agriculture extensive, pastoralisme, etc. Et où est-elle menacée le plus? C'est dans les campagnes ordinaires, soumises à… où les agriculteurs productivistes n'ont qu'une idée en tête, c'est de maintenir la nature à distance et de mener la guerre aux pesticides et aux mauvaises herbes et aux sales bêtes. Hein? Et puis c'est aussi dans les zones périphériques et c'est aussi en ville. Et donc ça donne à la protection de la nature une ambition beaucoup plus grande, qui est effectivement, il ne faut pas seulement se contenter de gérer les milieux qu'on a accepté de mettre un peu sous cloche, hein, pour essayer d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Et c'est à ça que pourraient servir les parcs naturels régionaux, s'ils en avaient les moyens. Et je pense que là, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on est passé en l'espace, bon, je dirais depuis 1980 à maintenant, à une protection de la nature, qui est une protection de la nature exceptionnelle, de la nature qui avait été remarquée par sa richesse d'espèces ou par des espèces très importantes qu'il fallait protéger, etc., à une nature ordinaire, celle que nous côtoyons constamment et celle que nous détruisons régulièrement. Et bien c'est là qu'intervient l'enjeu maintenant, Alors, ça pose problème pour les parcs, effectivement, parce qu'ils bon, continuent à faire leur travail. C'est un enjeu essentiel pour les parcs naturels régionaux. S'ils n'y arrivent pas, on ne voit pas comment ça pourrait arriver ailleurs. Hein. Et puis, dernièrement, ce que je voulais signaler, puis on y reviendra peut-être pour une autre raison, c'est que ça permet, ça a un revers. Et le revers de la médaille, c'est que gérer la biodiversité, c'est une façon de manager les choses, et c'est une façon, effectivement, ça renforce le côté technocratique de l'intervention de l'État. Et déjà que ce qui existait sur la protection de la nature avait tendance à être top-down, ça le devient de plus en plus. Et c'est tellement, on en arrive à un tel niveau de technocratie au niveau de la protection de la biodiversité, je dois vous dire que moi, des fois, après 10 ans de présidence d'un conseil scientifique, je ne m'y trouve pas dans ce qu'il faut faire, dans ce qui est possible de faire, dans etc., etc. Donc, on est arrivé à un tel niveau que, de plus en plus, les protecteurs de la nature, les militants, et souvent même les acteurs eux-mêmes de la gestion de la nature, sont en train de se dire, mais ça serait intéressant de laisser la nature en libre évolution partout où les humains ont cessé d'intervenir. Or, le partout, il y en a beaucoup, c'est de la nature ordinaire aussi, cette nature. Alors, cette nature, c'est pas de la nature à haut degré de naturalité comme la wilderness, hein? Mais il y a très peu en France de ça, c'est peanuts. Mais par contre, la nature en libre évolution, qu'on appelle la nature férale, il y en a partout, avec de la déprise agricole depuis les années 60, et Dieu sait s'il y en a eu dans les zones qui n'étaient pas des zones de plaine, avec la désindustrialisation, avec des friches industrielles qui sont considérables, avec les friches urbaines et périurbaines qui sont en attente de on ne sait pas trop quoi.
On y reviendra précisément dans quelques instants sur ces questions de nature en ville et de biodiversité urbaine, justement. Merci.
Voilà.
Oui, et peut-être avant d'arriver sur cet aspect-là, je voulais rebondir aussi un peu. Vous avez parlé de faire autrement. Faire autrement, c'est aussi faire avec, c'est aussi coopérer. Je crois que la question des enjeux de coopération nous tient à cœur, mais derrière, ça renvoie aussi à une logique du temps long. Or, aujourd'hui, il y a quand même des urgences. Je pense qu'on n'a pas toujours forcément le temps. Il existe aujourd'hui un certain nombre de réseaux, hein, vous les citez, que ce soit la Confédération Paysanne ou Via Campesina, qui aujourd'hui interagissent, qui ne sont pas forcément des réseaux qui sont les plus lobbyistes, j'ai envie de dire aujourd'hui, ou les mieux représentatifs. Est-ce qu'il ne faut pas, avec eux, créer un certain nombre de rapports de force, ou au moins les identifier pour justement arriver à modifier les modes de faire? Et vous l'avez dit tout à l'heure, comment on appréhende aussi les choses dans leur globalité? Parce que je pense que ce n'est pas effectivement en les prenant par des petits bouts, mais bien en essayant par rapport, y compris par rapport à des territoires donnés d'ailleurs, à les appréhender dans leur globalité.
Oui.
Mais je crois, bon, moi j'ai un peu de problème sur les questions d'urgence, parce que urgence, ça veut dire on ne peut pas attendre, parce que plus on attend, plus les choses iront mal, et plus ça sera difficile d'attendre. En même temps, urgence, ce n'est pas une urgence comme quand on va à l'hôpital, enfin quand on y allait, et qu'on vous fait rapidement un pansement, et puis on vous soignera plus tard. Je veux dire, il faut prendre tout de suite des mesures sur le long terme. crois qu'un des grands pièges de la, quand vous parlez d'autres modèles ou d'autres politiques, un des grands pièges des politiques, c'est de ne pas être capable de prendre en charge le temps long. Donc, moi, je n'opposerais pas urgence et temps long. Je dirais, il faut mettre en place maintenant des politiques qui peuvent durer longtemps. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas, me semble-t-il, véritablement d'opposition. Et donc, si vous voulez, bon, mais pour donner une formule générale, et puis on pourra y revenir, il y a quelque chose, moi, qui me marque, c'est une citation qu'on attribue à Einstein, mais qui n'est pas d'Einstein, mais peu importe, elle est bonne, qui est « On ne résout pas les problèmes avec le mode de pensée qu'il a engendré ». Or, aussi bien au niveau technique qu'au niveau politique, nous avons des modes de pensée qui ont créé des problèmes, et la tentation, c'est de continuer avec les mêmes modes de pensée. Or, là, justement, l'idée de l'importance de ce qu'on appelle parfois le présentisme.
Oui, de l'urgentisme.
Et de l'urgentisme, on est dedans.
C'est tout à fait le capitalisme, ça.
Il ne suffit pas de donner une autre réponse. Il faut, c'est là qu'on dit qu'il faut modifier nos façons de penser.
Voilà. Et de même pour l'intervention technique, hein, puis je reviens sur faire et faire avec, de même pour l'intervention technique, notre mode de pensée, on a tous les gens qui pensaient à la technique, pensaient la technique comme de la fabrication d'artifices, d'artefacts. Donc fabrication d'outils, de synthèse de produits, création de bâtiments, d'infrastructures, etc. Et c'est là-dessus qu'on a réfléchi, qu'on parle de technique. Et on a une culture technique, que je dirais, la culture technique du faire, c'est-à-dire que
quoi ? De la fabrication.
De la fabrication et donc du faire. On fait à partir d'une idée qu'on a en tête et on essaie de modeler la nature à cette idée. C'est le travail de l'ingénieur. Or, ce que l'on oublie, c'est qu'une grande quantité de résultats techniques ont été obtenus par une autre façon de faire, qui était de s'appuyer sur la nature, de prendre les processus naturels, de les orienter, de les entraver parfois, mais toujours de faire avec la nature, donc de piloter des milieux, des êtres, etc., afin de pouvoir obtenir, alors je dis piloter au sens du pilote d'avion, etc., traînant, je pense au sens du nautonnier, hein, qui avec les vents et les marées arrive avant. Et se faire avec, il est très important, c'est en fait tout ce qui est, c'est aussi l'art du thérapeute. Le thérapeute, il ne fabrique pas la santé. Si vous êtes malade, il va vous aider à guérir, s'il le peut. Donc, mais c'est vous qui guérissez, c'est pas le thérapeute qui crée la santé. Et donc, je pense alors à l'origine enfin, ce qui est à l'origine de beaucoup de choses. C'est comme ça que s'est développée l'agriculture, que s'est développé l'élevage, que s'est développé les fermentations. C'est comme ça qu'on a du roquefort, du pain, du vin, des bières, des salaisons, etc. Si ça n'existait pas, le pilotage, on n'aurait pas ça. C'est pas dû à la fabrication, ça. Alors, la différence entre les deux. Alors, c'est vrai que le pilotage peut utiliser des outils. Ce n'est pas une question de ne pas utiliser d'outils. L'agriculteur, le jardinier utilise des outils et le thérapeute, il est capable de vous mettre des prothèses, voilà, je cherchais le mot, de vous mettre des prothèses. Bon, donc ce n'est pas ça. Le problème, c'est effectivement ce qui distingue l'un de l'autre, ce sont deux cultures techniques. L'une qui est, considère au fond, qui est absolument insensible au contexte naturel et social dans lequel l'artefact va être utilisé, et l'autre qui, au contraire, ne peut réussir qu'en étant extrêmement sensible et extrêmement convaincu qu'il faut surveiller et qu'il faut aider les processus écologiques que l'on veut favoriser à se développer. Et donc, on a d'une part quelque chose qui est insensible au contexte et une attitude qui est sensible au contexte. Et je dirais, alors, comme ça, on va revenir vers Via Campesina, j'espère le plus vite possible. Eh bien, justement, l'agriculture productiviste, c'est une agriculture de fait, en fait, c'est du pilotage, parce qu'il ne contrôle pas tout, loin de là. Mais elle est pratiquée avec une culture de la fabrication. Et du coup, c'est pour ça que l'agriculture productiviste cherche à mettre la nature à distance, parce que pour elle, la nature, c'est une source de perturbation et qui va permettre à la production, qui ne permettrait pas une bonne production. Bon. Et alors, l'idée, c'est qu'on peut revenir à une agriculture du faire avec, à une agriculture qui tienne compte des milieux, et une agriculture qui, en fait, prenne la nature pour partenaire, au lieu de la prendre pour ennemi potentiel, et donc qui ne se déverse plus généreusement des masses de pesticides, d'herbicides, de fongicides et de tous les sites possibles et imaginables. Et donc, il faudrait passer, dans ce cas-là, de l'un à l'autre. Alors, quand on regarde de par le monde, il y a des tentatives partout. Vous avez parlé de Via Campesina, mais il y en a d'autres, dans d'autres pays, il y en a en Afrique, il y en a dans l'Asie, il y en a même en Chine, qui sont un peu marginaux, etc., mais il y a de la permaculture qui se développe en Chine, donc vous voyez, c'est pas... Et puis, en France, il y a un certain nombre d'expériences qui sont des expériences soit paysannes, soit d'agriculture en ville, soit de jardins partagés, etc. Et à mon avis, c'est le problème, c'est qu'il faut, si on veut vraiment que les choses changent, il faut prendre conscience, il faut suivre toutes ces expériences et toutes ces luttes, parce que souvent ça se fait sous la forme de lutte sociale, et essayer de les mettre en réseau et de faire en sorte qu'elle gagne en puissance, et que ça me paraît être un enjeu politique beaucoup plus que les prochaines élections. Excusez-moi.
Oui, c'est vrai que dans la question de Christiane, il y avait vraiment cette idée de rapport de force. J'aime bien la fin de votre réponse, parce qu'on comprend bien qu'il y a cette dimension-là. Le fait qu'il y ait des alternatives qui soient possibles, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais après... comme dirait Aurélien Bouteau, avec cette contrepétrine, comment passer de changer le pansement à penser le changement. Ouais. Je voulais revenir sur une thématique qu'on a déjà abordée un petit peu tout à l'heure, mais revenir sur cette idée de nature en ville, de biodiversité urbaine. Alors, il y a quelques pages dans votre ouvrage qui sont consacrées à cette question-là. Vous insistez bien en particulier sur le fait qu'il y a une sorte d'antinomie quand on parle de la nature en ville, alors que les villes elles-mêmes se sont construites pour s'isoler, pour se protéger vis-à-vis des risques que les populations pouvaient encourir dans la nature. Comment est-ce qu'on peut repenser finalement, alors on a déjà abordé certains de ces aspects-là, mais peut-être approfondir un peu, la place de la nature et de la biodiversité en ville? Et d'ailleurs, à ce sujet, Christiane peut apporter un témoignage par rapport à son expérience, et notamment à la ville de Lille, avant qu'on en vienne à la question.
Oui, très, très, très rapidement, je crois qu'effectivement, la notion de prise de conscience, que ce soit par les citoyens ou les politiques, de la place de la nature en ville, elle est importante, puisqu'on se rend bien compte aussi avec les hausses des températures, avec l'augmentation de la pollution de l'air, avec la fabrication des îlots de chaleur, hein, qui sont produits par effectivement un urbanisme pas toujours très adapté. On voit bien, mais vous l'avez aussi exprimé, et vous le dites sur les friches, notamment en Allemagne, qu'on voit arriver des espèces, alors qu'ils ne sont pas forcément des espèces extrêmement rares, mais on voit que sur la friche Saint-Sauveur, par exemple à Lille, on a la linéaire couchée qui est revenue. On voit que les ruches qui se situent dans les cimetières ou sur le toit de l'opéra produisent un miel de qualité. Et on voit bien aussi que pour les citoyens aujourd'hui, ça répond aussi à des aspirations grandissantes aussi, ne fût-ce que pour se détendre, hein, et on voit bien aujourd'hui comment ils sont utilisés, mais aussi de voir la nature en ville comme un hébergeur et comme un passeur de la biodiversité au travers des trames vertes, bleues et noires qui aujourd'hui sont de plus en plus développées aussi sur les territoires. Voilà, je voulais juste apporter ce complément à ce que vient de dire Olivier.
Oui, ben c'est tout à fait intéressant et je crois que ça marque bien le passage d'une époque à l'autre, du dualisme à la remise en cause du dualisme. C'est vrai qu'on a très longtemps réfléchi en termes d'opposition ville-nature, ville-campagne, ville-nature, et que la ville représente le summum de la distance vis-à-vis de la nature, hein, la campagne est une sorte d'intermédiaire, et que bon, les villes se sont construite contre nature, d'une certaine façon. Hein,
Il y a même un ouvrage qui
Mais oui,
s'appelle
on
Ville
avait,
contre nous.
c'est pour ça que je citais, on a participé à un colloque dont le titre était Ville contre nature, et donc où on était du côté de la nature, on était du côté de la ville. Et d'ailleurs, c'est parce que ces villes étaient, c'était, alors, les villes du 17e, du 16e, du 17e et du 18e siècle, il y a encore beaucoup de jardins, il y a beaucoup d'espaces verts, mais petit à petit, quand l'urbanisation gagne, ça disparaît. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fabrique de toutes pièces des jardins. Hein. Bon, alors, on n'est pas à Paris, enfin, nous sommes à Paris, mais vous n'êtes pas à Paris, mais nous connaissons ces constructions. Bon, Central Park à New York, le Bois de Boulogne à Paris, etc., qui sont des espèces d'îlots d'une nature exotique, pas, qui n'est pas la nature qu'il y a sur place, hein, et puis qui est plantée. Bon. Et puis, en fait, la nature, elle résiste, elle tient le coup, hein, elle rentre, c'est très simple, vous prenez n'importe quelle rue, vous la barrez au debout. Hein, au bout de quelques semaines, eh ben si c'est du goudron, il est fendillé et on voit sortir. Hein. Donc, sous la ville, hein, c'est pas seulement sous les pavés de la plage,
Et dans
hein,
les incertices.
C'est aussi dans la ville, la nature pointe partout. Et pendant un certain temps, on l'a pourchassé. Hein. Le rôle d'un maire, c'était de mettre des herbants sur les trottoirs parce que ça ne faisait pas propre. Puis, petit à petit, on a pris conscience de l'importance de cette nature. Il y a des gens au muséum, bon, je parle depuis Paris, hein, qui sont mis à étudier. On avait un ami qui était un grand spécialiste de la faune, de la
Flore.
flore, de la flore urbaine. Et c'est extrêmement divers et compliqué. Et en plus, ça ne correspond pas à une nature primitive. Hein. L'histoire qu'on raconte dans le livre, c'est effectivement comment les trains qui, à Berlin, pendant le nazisme, venaient partout de l'Europe, ont apporté des semences, des graines qui se sont mises à pousser. Et on a à Berlin une nature, c'était sur une friche, qui correspondait pas à rien. Bon. Et tout d'un coup, ben, on s'est mis à la trouver admirable. Et ça, c'est très important dans le changement d'esprit par rapport au jardin. Un jardinier comme Gilles Clément, qui bon, il fait des jardins, il est pour la défense des friches urbaines, mais il fait des jardins, mais il fait des jardins où il accompagne la nature. Hein, il ne sait pas à toute force d'implanter la nature. Et bien, il disait, dans un article, il disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il disait, les jardins très léchés, ces jardins artificiels finalement, ils sont vandalisés. Et Gilles Clément disait, mes jardins, ils ne sont pas vandalisés. Donc il y a une sorte d'accord, hein, de prise de conscience du public. De la même façon, ben, sur les trottoirs, on ne met plus de désherbants. Alors, dans un premier temps, moi, je me souviens, une fois que j'étais allée à Sceaux, qui est une banlieue chic de Paris, et le maire disait à quel point les gens étaient furieux que les herbes poussent, et dans les cimetières aussi. Et ben, de plus en plus, les gens se rendent compte que ben, non, cette nature, elle est là, on ne lui a pas demandé de venir et elle est importante. Et du coup, on découvre ce que vous disiez, bon, le végétaliser les villes pour diminuer la température, parce qu'on découvre que ces villes qu'on a mises à l'écart de la nature, ben, elles l'ont retrouvée ailleurs, il fait plus chaud dans les villes que dehors. Donc, c'est vraiment représentatif du passage qu'on montre d'une vision dualiste qui sépare à une vision qui regarde les interactions entre les humains et la nature.
Je vois qu'il est déjà presque 5 heures. On avait encore deux thématiques qu'on souhaitait aborder avec vous avant de pouvoir collecter les questions des participants. Donc peut-être
même si vite, peut-être.
Ouais, on peut essayer en allant un petit peu plus vite. La première thématique, c'était autour de la question des biens communs au monde commun. Donc il y a un chapitre, hein, dans l'ouvrage qui est consacré à cette question des biens communs. Alors en particulier en lien avec les questions de biodiversité. Et il y a notamment une section que moi j'ai beaucoup appréciée, où vous argumentez sur la nécessité de passer de cette notion de bien commun, alors que vous mettez d'ailleurs au singulier, mais en se référant par ailleurs aux travaux d'Elinor Ostrom, où c'était plutôt finalement les biens communs en l'occurrence, hein, à cette idée de monde commun. Je fais une petite parenthèse, hein, d'ailleurs, pour dire que tout récemment, le mois dernier, il y avait une émission consacrée à Elinor Ostrom sur France Culture, où Catherine Larère témoignait en binôme avec Martine Antonat, et j'invite les auditeurs, les participants à s'y référer puisqu'elle est podcastable. Mais peut-être que Christiane, qui avait aussi une question en lien avec ça, peut la poser directement et puis vous en ferez votre miel.
C'était la question de est-ce qu'on peut dissocier la nature des questions qui soient environnementales, économiques, de santé et de justice sociale, quoi. Et bon, comment on associe à l'objectif productif, mais vous l'avez déjà aussi un peu abordé, hein, des objectifs environnementaux et sociaux. Et derrière ça, c'est la notion d'un autre mode de développement, hein, et la question de la soutenabilité aussi du développement économique et l'aspect aussi local, c'est-à-dire on renvoie aussi au territoire derrière ces questions de commun.
Alors, très vite. Je dirais que là aussi, il faut remonter sur la question de la biodiversité, des communs, etc. Il faut remonter à Rio, au sommet de la Terre, à Rio, en 1992, où il y a, sur la question de la biodiversité, il y a deux possibilités en concurrence. L'une qui est soutenue par la France, d'ailleurs, qui est de décréter la biodiversité patrimoine commun de l'humanité, ce qui est une façon de la retirer au marché. Et puis l'autre, qui est la proposition aussi bien des États-Unis que des pays comme le Brésil ou des pays même encore moins émergents, qui est de mettre la souveraineté sous la biodiversité sous la souveraineté des États. C'est ça qui l'a emporté à Rio, parce que bon, ça voulait dire ça, ouvrir un marché de la biodiversité. Et alors que il y avait une marchandisation possible de la biodiversité auprès des firmes pharmaceutiques, hein, donc le Sud riche en biodiversité servant de base de ressources au Nord. Alors ça s'est fait beaucoup sur une incompréhension des communs, c'est-à-dire l'idée que dire la biodiversité patrimoine commun, c'est dire qu'elle est ouverte à tous, ce qui n'était pas le cas. Hein. Et donc c'est à partir de là, à partir de l'échec qui a été, alors c'était le moment où on disait on ne protège bien que ce qui a de la valeur, hein, en jouant sur le terme de valeur, et plus on valorisera économiquement la biodiversité. Bon, ça a été un grand échec, hein. Et on a lancé l'idée
qu'il y a les services écosystémiques qui sont censés valoriser la biodiversité.
Oui, mais justement plutôt en les prenant au niveau des communs, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire usage de biens naturels qui ne sont pas privativement appropriés, mais qui sont de l'usage de tous, mais suivant des règles. Hein, c'est bien l'idée des communs et c'est bien ce qu'a développé Elinor Ostrom. Alors, moi, ce que j'ajoutais à ça, c'est que ça continue à faire de la biodiversité une ressource et que ce n'est pas ce type d'idée de la nature qu'on défend dans une instrumentalisation de la nature et que se mettre dans notre point de vue qui est que nous faisons partie de la nature, nous en sommes. Nous ne la sommes pas, mais nous en sommes de la nature. Et à ce moment-là, trouver ce monde commun, et il y a quelque chose qui a un mot qui a pris de plus en plus d'importance, qui est d'habiter. L'idée est que la nature, c'est quelque chose qu'on habite, et donc ce n'est pas une question de ressources à exploiter, c'est une question, je reviendrai au mot de notre premier livre, de bon usage, hein, de bien savoir comment prendre soin du monde dans lequel nous vivons. Voilà, pour aller le plus vite possible. Et bon, à ce moment-là, bien évidemment, et ça montre bien sur la question de la biodiversité, ce que disait Raphaël sur les écosystèmes, à partir du moment où on ne considère pas que c'est une ressource marchandisable, mais que c'est quelque chose comme un monde commun, dans ce monde, il y a des humains, il y a des problèmes sociaux. Hein, et les questions de biodiversité, nord-sud, c'est des questions de justice globale et de justice locale, aussi bien.
De même que les questions de changement climatique, c'est des questions de justice globale et de justice locale, et même à l'intérieur, de justice entre les riches qui consomment beaucoup et les pauvres qui consomment moins.
On a essayé d'aller vite.
Très bien, mais on a échangé en parallèle avec Christiane. Ce qu'on vous propose, on avait une dernière séquence autour des questions de justice environnementale, justice sociale, mais finalement, on vient tout juste de clôturer sur cette question-là. On posera la question en fonction des questions qui sont posées aussi par les participants. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions qui arrivent. Bonjour. Sur le chat. Okay. Je vais me faire le porte-voix de Julien Sylvestre, hein, puisqu'il ne peut pas prendre la parole pour poser la question lui-même. Bon, c'est une question qui est un peu sous la forme de sujet de philosophie. Hein.
Oui, c'est pour ça.
Vous commenterez la situation suivante. Donc, sentez-vous libre de dire, attendez, laissez-moi 3 heures et je vous rendrai ma copie après. Mais il y avait cette citation, effectivement,
d'Élisée Reclus.
Julien Sylvestre, citation d'Élisée Reclus qui reprend finalement votre propos, « L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même ». Et donc, il poursuit, c'est Julien qui parle, elle a la force de la concision, cette citation, et le poids de son héritage historique, puisqu'elle date de 1905. Comment expliquer que plus d'un siècle plus tard, cette conscience peine à émerger? Pensez-vous que les résistances sont davantage sociales ou psychologiques?
Alors, je suis désolée de pas aller complètement dans le sens de Julien Sylvestre. J'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour Élisée Reclus. Je veux dire, son histoire d'un ruisseau, par exemple, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui parle très bien de l'eau, hein, qui est une question écologique extrêmement importante. Bon, alors moi, c'est peut-être parce que j'ai ma formation de philosophie, mais l'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes, pour moi, c'est du Hegel. Hein. C'est la nature, c'est l'objectivité qui atteint au niveau de sujet, la nature se réfléchit en l'homme comme sujet. Et donc, c'est l'homme quand même qui dit quelque chose sur la nature et qui... Bon. Moi, alors, si Julien Sylvestre entend ça comme il n'y a pas de raison de séparer l'homme et la nature, je suis d'accord. Hein. Mais tout à l'heure, j'ai dit très rapidement, la nature, nous en sommes, nous ne la sommes pas. Nous ne nous confondons pas avec la nature. Nous sommes d'abord, en gros, nous sommes plus méchants pour aller vite, hein, parce que ça va être long sinon de répondre. Oui. Mais bon, c'est pas la peine de dire que l'homme est exceptionnel, mais il est différent. Et donc, on ne peut pas traiter l'homme comme s'il était purement naturel. aussi parce qu'il y a des différences culturelles et que quand on fait ce genre d'assimilation entre homme et nature, comme par hasard, c'est la vision occidentale qui l'emporte. Et que la façon dont un latino-américain ou un indonésien ou un africain voit la nature, on l'oublie. Ne serait-ce que parce que pour un indonésien, pour un africain, pour un latino-américain, la nature au sens où nous l'entendons, ça n'existe pas. Donc moi je dirais plutôt, il y a entièrement d'accord pour reprendre la définition de la phrase de d'Élisée Reclus comme ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais je répète, nous en sommes, nous ne la sommes pas. C'est moins joli qu'Élisée Reclus, mais bon, tout le monde n'est pas Élisée Reclus.
Très bien, je vais enchaîner avec la question d'Étienne Delgrange qui vous pose la question « Que pensez-vous de la géo-ingénierie ?»
Vas-y. C'est typique de la fabrication.
Ah oui, ça, la géo-ingénierie, c'est typique d'une culture de la fabrication. Bon, l'idée, en fait, c'est très amusant. C'est-à-dire que ça part de l'idée que le changement climatique est produit par les humains, d'où d'ailleurs l'idée de l'anthropocène dont Catherine pourrait parler, moi aussi, mais enfin, bon, elle en parle mieux que moi. Et le problème, c'est que à partir de là, il y a des gens qui se sont dit, mais si on est capable de détruire totalement le climat, on est capable de le rétablir, on est capable de le diriger. Et jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs propositions. Alors, si vous voulez, d'une part, dans la géo-ingénierie, on a réinséré dans la géo-ingénierie les reboisements, le fait de faire des puits de carbone avec des reboisements. Oui, encore faudrait-il ne pas déboiser à côté. Et encore faudrait-il que ces reboisements qui permettent à des entreprises de continuer effectivement à émettre beaucoup de CO2 puisqu'ils reboisent, ne soient pas des reboisements d'eucalyptus qui, au bout de 2 ou 3 révolutions d'eucalyptus, ont totalement épuisé le sol. Bon, et c'est ce qui se passe actuellement. Mais surtout, on a proposé d'autres solutions, de mettre dans l'atmosphère, de mettre dans l'océan des nanoparticules de fer. Personne n'est capable de savoir ce que ça donnera comme résultat, enfin, les conséquences que ça pourra avoir pour la microflore et la microfaune de l'océan, et donc pour le plancton. Personne n'est capable de savoir quelles en seront les conséquences biologiques. Et puis, il y a l'autre truc qui était de mettre dans l'atmosphère des particules de soufre, de sodium sulfuré, sans se rendre compte que c'est en 1815, je crois, le tambourin, une explosion énorme de volcans en Indonésie fait que pendant 3 ans il n'y a pas eu d'été, il n'y avait que de l'hiver et il y a eu des famines considérables et donc effectivement il faut peut-être faire très attention parce que personne ne sait comment doser pour arriver à empêcher le CO2 de bloquer.
Alors j'ajouterais en plus sur ces particules de soufre, enfin cet envoi de particules de soufre dans l'atmosphère pour faire effectivement un peu l'effet d'une éruption volcanique et donc bloquer les rayons du soleil. Il y a la question des conséquences involontaires qui peuvent être bien pires que ce qu'on attend et en plus ce qui est montré, c'est que si on commence, on ne pourra pas s'arrêter. C'est-à-dire, si jamais on arrête d'envoyer des particules à ce moment-là, la température va redémarrer à vitesse exponentielle. Ouais. Donc, ça demanderait une intervention continue. Alors, c'est typique de ce qui est à l'origine de nos problèmes, qui sont non pas ce qu'on vise, mais les conséquences involontaires de ce que l'on fait. Personne n'a voulu le changement climatique. On a voulu développer l'industrie et on envoyait du CO2 dans l'atmosphère. Et alors on se dit, oh ben, si on manipule la Terre, on envoie des particules de soufre. Très bien, peut-être qu'on va faire baisser la température, mais qu'est-ce qu'on va produire en plus ? Ce sera sans doute pire.
Thierry Claire, en plus, on l'aura voulu. Voulu changer le climat et simplement on se sera gouré.
Alors, c'est vrai que tous les programmes du GIEC, sous le terme de géo-ingénierie, comme disait Raphaël, on entend aussi bien du reboisement que des manipulations un peu pas science-fiction, mais bon, au niveau global. Alors, c'est vrai que ça n'ira pas sans un minimum de modifications techniques, capture de CO2, etc. Mais là encore, c'est l'esprit général. Il ne s'agit pas de fabriquer un nouveau climat.
Et je voulais dire, alors, pour nuancer un peu sur la géo-ingénierie, où j'ai parlé du reboisement, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas des choses à faire pour faciliter la fixation du carbone. Il y a plusieurs choses. D'abord, je vous signale que reboiser dans un pays comme la France, ce n'est pas la peine. Elle se reboise toute seule, sans problème, grâce à la déprise agricole. Merci. Bon, mais ça peut être aussi, effectivement, de laisser, dans les zones qui sont en train de se fermer, de laisser, au fond, la nature en libre évolution. Plus elle ira vers la forêt, plus elle pourra... Et puis surtout de cesser totalement, voire de restaurer des tourbières, parce que la tourbière accumule encore plus de carbone que la forêt. Et dernier point, et là je reviendrai presque avec l'histoire de l'agriculture et de l'agroécologie, eh ben, on a repéré avec 4 pour 1000 de présence de carbone dans le sol arable, dans un pays comme la France, toutes les émissions de CO2 du pays seraient compensées. 4 pour 1000, ben c'est quoi ? Et c'est simple. Bon, ça ne peut pas se faire en une année, ni en 2 ans, ni en 6 ans. Et ça veut dire quoi ? Qu'il faut passer d'une agriculture qui passe son temps à labourer, détruire la faune et la flore du sol, pour une agriculture, justement, agroécologie, qui n'utilise plus le labour, mais qui sème directement sur des restes de culture, et qui en arrive à remonter le pourcentage, le taux de matière organique dans le sol, ce qui aura 2 avantages, fixer du carbone et d'autre part rendre le sol moins sensible aux sécheresses. Bon, ben voilà. Mais malheureusement, il n'est pas du tout évident que la nouvelle PAC prenne ça en compte, et même si elle le prend en compte, il n'est pas évident que la FNSEA se laisse convaincre, loin de là, et si elle n'est pas convaincue, il n'est pas du tout évident que notre ministre de l'Agriculture ne lui donne pas raison.
On revient à la question des rapports de force, mais qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, on avait une question du même auteur que la question précédente sur la géo-ingénierie, mais je pense que si on veut répartir aussi la parole entre les différents participants, c'était une question sur la relation entre biorégion et commun.
Oui, tu peux répondre à biorégion, non ? On passe à autre chose, comme vous voulez.
Oui, voilà, je propose qu'on passe à la question de Lucie Viard, qui déjà nous remercie, enfin vous remercie pour cette présentation passionnante. Et donc, elle dit la chose suivante, elle dit « Je me demandais, en sachant que vous travaillez un peu sur ces questions, comment pensez-vous arriver à conjuguer une éthique environnementale avec une forme d'éthique animale, les deux étant considérés par certains comme en contradiction, le terme de biodiversité, par exemple, qui invisibilise l'animal sauvage en tant qu'individu. Donc, sur cette articulation éthique environnementale, éthique animale.
Oui, alors si vous voulez, dans un premier temps, hein, l'éthique environnementale, donc l'éthique des rapports de l'homme ou des humains avec la nature, et l'éthique animale, l'éthique des rapports avec les animaux, on peut se dire c'est du même genre. Hein. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ça remet en cause l'idée généralement reçue que le domaine de l'éthique ou de la morale, c'est uniquement les rapports des humains entre eux. Donc on dit, ben non, il y a des devoirs moraux qui concernent la nature et peut-être que les entités naturelles ont des droits, ont une valeur. Et ça, c'est, enfin, quand je l'enseignais, ça passait encore mieux. Nous avons non seulement des devoirs vis-à-vis des animaux, mais les animaux ont des droits à notre égard. Et puis quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'en fait, ça peut être tout à fait contradictoire. Alors, contradictoire, ça peut s'opposer. Alors, la question est tout à fait pertinente sur la question des individus, parce que l'éthique environnementale, surtout certains regardent, soit des populations, hein, on protège pas uniquement un animal, on protège une population, on va protéger, regardez tout ce qu'on vous dit sur les ours, hein. on protège une population d'ours, c'est pas chaque ours. Voilà. Or, l'éthique animale, beaucoup plus proche de l'éthique humaine de ce point de vue-là, accorde de l'intérêt à chaque individu, au point même quelquefois de dire la différence d'espèce ne compte pas. Et ça peut rentrer en conflit, alors je vais prendre l'exemple qui peut permettre de saisir ce conflit, qui est l'histoire du bison pris dans la glace en plein cœur du Yosemite, hein, grand espace naturel, un bison est tombé, il s'est cassé la patte et la rivière est en train de geler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est ému de la souffrance du bison et on va sauver le bison? Ou est-ce qu'on dit, le bison il va mourir et puis sa carcasse va alimenter
les vautours,
les gypaètes barbus, d'autres charognards, et puis etc. Donc on va montrer les interactions. L'éthique environnementale, c'est une éthique des interactions naturelles et de l'intérêt de que ces interactions se développent le mieux possible. Alors que l'éthique animale, c'est une éthique qui considère chaque animal dans son individualité. Je dirais de ce point de vue-là, d'ailleurs, mais je ne suis pas totalement d'accord avec la question, on peut ne pas faire de différence entre l'animal sauvage. C'est la législation qui ne prend pas au sérieux les animaux sauvages. Alors, il y a une autre position, comme il y a des conflits entre défenseurs des animaux et défenseurs de la nature, il y a actuellement les véganes, ceux qui sont adeptes non seulement d'une alimentation uniquement végétale sans produits animaux, mais également, pas de cuir, etc.
Avec de bonnes raisons morales,
d'ailleurs. Avec des raisons morales, disent, mais il y a une convergence possible entre les questions environnementales et la défense des animaux, parce que nous savons, d'une part, c'est l'élevage industriel, et c'est l'élevage en général, parce que l'élevage est producteur de méthane, donc de gaz à effet de serre. Ça détruit, c'est une cause de destruction
de biodiversité.
Et donc, si on interdit l'élevage, c'est dans l'intérêt de l'environnement. Et donc, pour dire, il y a une pluralité de positions, mais c'est vrai qu'il peut très bien y avoir des conflits entre défenseurs des animaux et défenseurs de la nature.
Ce à quoi on peut répondre, si on interdit l'élevage, hein, tout élevage, je ne parle pas. Si on interdit l'élevage industriel, pas de problème. Mais si on interdit l'élevage de façon générale, nous ne pourrons manger qu'avec une agriculture hyper productiviste qui va tuer des milliards et des milliards d'insectes, et les oiseaux qui derrière, et les chauves-souris aussi.
Voilà. Donc, ce n'est pas des questions simples. Hein. Ce n'est vraiment pas des questions simples.
Alors, je vais prendre la question de Louise Barbeau, qui dit qu'elle se questionne beaucoup à propos des raisons qui nous poussent à protéger un espace en particulier, au travers notamment des parcs. Donc, elle est gênée avec les parcs nationaux, ou du moins avec leur fondement, puisque pour elle, c'est protéger ce qui est remarquable, ce qui compose à nos yeux une nature stéréotypée et un peu idéalisée.
Alors que les services écosystémiques, c'est plus rationnel.
Ouais. Voilà, finalement, c'est créer une échelle de valeur qui ne semble pas très spontanée et peu scientifique, et que les services écosystémiques me semblaient un moyen d'utiliser, certes, une nouvelle échelle de valeur, mais cette fois-ci avec comme justification de renforcer notre mode commun et la manière dont notre monde commun, pardon, la manière dont on l'habite. Qu'en pensez-vous? De plus, il me semble qu'un lieu, je suppose, comme celui du Sungeland à Berlin, dont oui. vous parlez dans l'ouvrage, constitue un modèle intéressant de parc de demain, moins hiérarchisant pour la nature et plus ouverte aux éventualités que la nature propose.
Alors moi, je parle du début sur les parcs, comment ils ont été.
Il nous reste une dizaine de minutes et il y a encore.
Je réponds rapidement et puis tu me complètes. Je dirais que ce n'est absolument pas exclusif. C'est absolument pas exclusif. Les parcs, je suis d'accord avec la question que c'est finalement une sorte. Cette recherche de protection du remarquable, hein, on disait le Yosemite, les Dolweiss, ou alors dans les Alpes, les Dolweiss, on parlait du Jupiler barbu, etc., d'un certain nombre d'espèces de plantes ou d'animaux emblématiques. C'est beaucoup plus une projection un peu subjective qu'un vrai travail scientifique. En même temps, ça a permis de maintenir un certain nombre d'espaces à l'écart de la voracité, si je parle des Alpes, et bien des stations de ski et de choses comme ça. Et c'était inventé pour ça, hein, pour empêcher que la montagne soit entièrement un terrain de ski, ce qui détruit la montagne, et puis maintenant on n'a plus de neige. Bon.
Donc, c'est pourquoi dans les premiers projets, il s'appelait parc culturel.
Et donc, ça serait complètement idiot de ne pas continuer à s'en occuper. Ce que Raphaël vous a dit, et ce qu'on dit tous les deux, c'est que justement là-dessus, on a changé. On ne cherche plus à protéger du remarquable, et d'autant plus que le changement climatique va changer les choses. Et donc, on a dit bien, hein, protéger une nature ordinaire dans toute sa diversité, et l'histoire de Berlin, du Sud-Golem 2, c'est ça, il y a des histoires, je pourrais vous en raconter plein sur le parc de la Courneuve, mais on n'a plus de temps, hein, mais des histoires de ce genre, on en trouve beaucoup. Je pense qu'il faut toujours être attentif à ce que je disais, la nature, elle arrive là où on ne lui demande pas d'être, et à ce moment-là, ben, il faut lui donner de l'importance. Alors,
sans on tenir. Parle de la Courneuve quand même. J'aime tellement.
Bon, je vais raconter très 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 vite l'histoire du parc de la Courneuve, qui est un parc entièrement artificiel. Mais il s'est trouvé que sur les bords de ce parc, parce que tous les chantiers de la Défense et du Forum des Halles se sont déversés dans l'endroit où on a mis le parc de la Courneuve, pour vous dire qu'on a remué de la terre. Et dans cette terre qu'on remuait, et ben, fiof, est arrivé un petit cratère où il y avait de l'eau, parce que la nappe phréatique avait remonté, alors ça avait fait des espèces de petites mares, est arrivé un crapaud, qu'on appelle un crapaud calamite, qui est un crapaud qui aime les terres remuées. Et ce crapaud calamite, qui était inscrit sur la liste des espèces protégées, a permis d'empêcher qu'une bretelle d'autoroute passe et coupe une partie du parc de la Sorbonne, de la Courneuve. Et
ça a été,
à partir
ça
de
a
là,
été une calamité pour les
à partir de
pour
là
pour les BTP.
À partir de là, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « Ah oui, mais alors, cette partie du parc, il ne faut pas tondre les pelouses, faire des laisser jouer au football, etc. Il faut faire une gestion écologique. » C'est ça, ce type de protection de la nature qu'on défend, d'être attentif à accueillir la nature là où elle arrive. Alors, sur les écosystèmes, et, on en aurait jusqu'à demain. Sur les services écosystémiques, il y a beaucoup à dire.
Je rajouterai sur le crapaud calamite et son histoire que maintenant, le vallon écologique de la Courneuve est une zone Natura 2000. C'est-à-dire que c'est en plein chantier. Enfin, on peut pas dire, c'est quelque chose qui a été totalement bouleversé auparavant. Mais les animaux sont revenus, des plantes sont revenues, etc. Et maintenant, ils sont en zone Natura 2000, ce qui fait que la commune était absolument ravie qu'il y ait une zone Natura 2000 au milieu d'une cité ouvrière.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on a une question de Antia González Figueira, j'espère que je prononce bien son nom, qui nous permet en même temps de boucler sur une des questions qu'on avait eu l'intention d'aborder sur l'articulation justice sociale, justice environnementale. Et donc, elle dit la chose suivante. Bonjour et merci à vous toutes et tous pour cet échange rafraîchissant. Je souhaiterais vous poser une question sur le lien entre la justice environnementale et la justice sociale. Comment pensez-vous qu'il est pertinent d'inclure dans la réflexion et mise en œuvre de la transition écologique davantage de collectifs sociaux ? Comme mentionné par les panélistes, la production scientifique et juridique des questions écologiques est souvent trop occidentale, entre parenthèses, plutôt blanche, souvent aisée, un schéma qui a tendance à se reproduire même à l'échelle locale. Trois points de suspension. Et ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse de cette question la dernière question de notre échange, hein, puisqu'on s'approche tout doucement de l'heure de fin qu'on avait programmée.
Si vous voulez, alors là, c'est une vaste question. Bon, moi, j'ai été amenée à étudier ça et à diriger un collectif sur les inégalités environnementales, qui est que, effectivement, on peut pas séparer l'environnemental et le social, et que tous les humains souffrent. Des dégradations écologiques, mais ils en souffrent de façon très inégale. Et que, en gros, c'est les populations les plus vulnérables, les moins résilientes, qui sont les plus atteintes. L'exemple donné toujours étant l'ouragan Katrina. Qui est-ce qui a été le plus atteint par l'ouragan Katrina? C'est les Afro-Américains qui d'une part vivaient à des endroits qui ont été plus inondés, et qui d'autre part, toute l'évacuation de la Nouvelle-Orléans avait été prévue en voiture et ils n'en avaient pas de voiture. Donc de ce point de vue-là, la question de la transition écologique, c'est pas simplement un problème de changer de modèle économique ou de décarboner la finance. C'est en même temps un problème, effectivement, de tenir compte de la diversité sociale et culturelle des collectifs sociaux. Et de aussi, Raphaël disait, il y a des choses qui se passent. Il y a partout dans le monde, je pense aux travaux de l'économiste Joan Martínez Allier, qui étudie partout dans le monde ce qu'il appelle l'environnementalisme du pauvre. C'est-à-dire les luttes pour la défense du milieu de vie, qui sont à la fois des luttes écologiques et des luttes sociales. Donc ça, moi, c'est une conviction pour moi.
Et des luttes contre les discriminations aussi, parce que très souvent, les pauvres, surtout quand ils sont discriminés pour des raisons de race, comme aux États-Unis, etc., quand on a une saloperie à leur mettre, c'est-à-dire une décharge, une usine dangereuse, etc., c'est pour eux. Et même d'ailleurs, même quand ce n'est pas voulu totalement ici, on a bien vu, on sait actuellement, il y a eu des études de fait là-dessus, que dans la banlieue nord de Paris, dès qu'il y a une usine dangereuse, de type Céveso, une usine qui est sous ou sous truc, c'est un appel d'offres pour les autres usines. Et tout autour, peu à peu, la population change et ce sont les plus pauvres et généralement les derniers immigrés qui viennent s'installer là. Dès qu'ils ont fait un petit peu, dès qu'ils ont réussi, ils foutent le camp et puis d'autres arrivent. Donc, c'est surtout les plus défavorisés qui sont les plus menacés.
Et d'autant moins, je rajouterais d'autant plus menacés que ils ont pas accès à la décision. C'est pas eux qui voilà. décident et qu'ils ont pas vraiment les moyens de s'y opposer. Donc.
Et la redistribution à leur égard n'est pas non plus toujours à la bonne.
Pas à la hauteur. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus.
Bon, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a eu un échange qui était très riche. Hein. On voit que, d'ailleurs, dans le fil de discussion, les participants remercient chaleureusement. Et
ça fait plaisir, merci aux participants.
Merci, ouais. Oui, parce que c'est vrai que ce
organisateur
est quand même un peu particulier, qui fait qu'à travers ce webinaire, nous, on ne peut pas voir, on peut pas avoir accès finalement, au visage des participants. Je voulais simplement, peut-être juste avant qu'on se quitte, rappeler que ce cycle de manifestations autour du végétal, il se poursuit. Il y a une prochaine séance qui est programmée le jeudi 8 avril à 13h, où il faut s'inscrire pour un atelier en ligne, un scénario paysager d'un territoire par la recherche et création, l'exemple de la Vénois, 14e au 18e siècle, et puis tout un ensemble d'autres séance que vous pouvez retrouver sur le site de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, sachant que ça a été mis aussi, je pense, dans le chat. Voilà, moi, de mon côté, je vous remercie vraiment parce que j'ai trouvé que c'était un échange très spontané et très riche.
Ben merci, Olivier. Ben merci beaucoup. Merci, Christiane.
Merci aussi. Je m'associe au remerciement d'Olivier. C'était vraiment un moment passionnant, sans langue de bois, avec des discours tout à fait instructifs, comme c'est rappelé aussi dans le chat. Un grand merci.
Merci à tous.
Merci à tous.